Souvenez-vous, quand nous nous sommes quittés en juillet, c'était quasiment réglé. Cette semaine, la rentrée, ça devait être la semaine de l'économie qui repart. La semaine où le gouvernement explique la relance et aligne les dizaines de milliards. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Message économique reporté, message sanitaire déployé, de plus en plus de masques obligatoires sur le nez. Tout plutôt que le reconfinement, ça c'est certain. On a eu confirmation hier, hein, le confinement a fait chuter l'économie plus que la crise de 2008, plus que la grève de 68. Alors maintenant, comment on remonte la pente, ou plutôt, comment on arpente cette ligne de crête santé, économie? Eh bien, 11e saison, on n'arrête pas d'écho, et je vous rassure, nous non plus, une crise comme celle-ci, on n'en a jamais vu. Alors on va essayer pour vous d'être aux avant-postes de ce qu'il faut anticiper et espérer. Nous sommes heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 29 août, ce matin, la réalisatrice s'appelle Juliette Gou. Valentin Pérez est attaché de production et à la technique, c'est Julien Dumont qui nous accompagne. Au menu, comme tous les samedis, le débat. Et je salue Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
J'ai une question pour vous ce matin. On a appris hier soir que le haut commissaire au plan s'appellerait François Bayrou. Alors, on va pas faire de politique, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce qui ressemble à l'ancien monde pour nous dresser un panorama ou un chemin pour le nouveau monde, comme vous avez bossé au plan
Oui, on pourrait se dire que le gouvernement dispose déjà de beaucoup de techniciens, d'experts, conseillers d'analyse économique, France Stratégie, etc., etc. Moi, le plan dans lequel j'ai travaillé faisait quelque chose en plus, c'est-à-dire que on prenait un sujet, par exemple, on pourrait se dire là, comment est-ce qu'on organise la transition écologique de la France? Et qui est-ce qu'on mettait autour de la table? Des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des représentants des collectivités locales, des universitaires.
Mais c'est pas ce qui se passe à Bercy, au ministère de l'Écologie?
Non, pas vraiment, parce que le plan avait une dimension, comme on dit, interministérielle, c'est-à-dire on pouvait prendre en compte l'agriculture, l'industrie, les services, tout le monde en fait, les intellectuels, les hauts fonctionnaires, et avec tout ce monde-là, on commence à bâtir un consensus démocratique avant d'aller le proposer au débat international.
Bon d'accord. Alors, bien sûr ce matin, un gros clin d'œil à votre compère, notre compère Emmanuel Le Chypre, qui nous a accompagné pendant toutes ces dernières années, et puis vraiment, bienvenue à vous Laurent Bigorne, bonjour.
Bonjour.
Laurent, on vous accueille avec un grand plaisir, vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne, c'est un think tank, et puis pour le reste, pour les auditeurs, je vous laisse dire ce que c'est ce think tank.
Bah, on va être un concurrent du plan, d'une certaine façon, avec mes autres camarades des think tanks français. Nous, on est un think tank qui est complètement financé par les entreprises, mais avec des règles de financement très strictes. On nous qualifie de libéraux. Alors généralement, les gens qui sont à gauche nous trouvent à droite, les gens qui sont à droite nous trouvent à gauche, ce qui me va assez bien. Et on travaille essentiellement sur des questions qui touchent à l'économie, à l'Europe, à l'international, mais aussi en France, au marché du travail, l'éducation, la santé, l'énergie, etc.
Notre terrain de jeu, quoi.
Exactement.
Bienvenue sur le terrain de
Merci.
Jeu. Dans le débat, on va anticiper le plan de relance que nous attendons donc pour jeudi prochain. Il y a quand même eu pas mal d'infos distillées cette semaine. Un plan à 100 milliards. Alors si pour 100 balles, t'as plus rien, pour 100 milliards, que peut-on vouloir? Le débat. Ce sera dans une poignée de secondes. On aura aussi le reportage d'Annelle Verzo sur le terrain. Elle a tendu son micro à Issoudun, dans le centre Val-de-Loire. Vous l'entendrez. Et puis notre invité, ce sera le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, qui sera dans ce studio vers 9h45. À ce moment-là, on finira notre panorama de rentrée avec vous. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Que de courriers des auditeurs dans la boîte aux lettres, on n'arrête pas l'écho. Ce matin, vous avez choisi la question de Pierre Hubert.
Oui, Pierre Hubert qui est très inquiet des clusters, des quatorzaines. Et cette quatorzaine est-elle obligatoire quand un collègue est testé positif au Covid?
Tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur la quatorzaine depuis quelques semaines. Ma vie au boulot, ça sera juste avant 10h. Mais d'abord, le débat. Pour 100 milliards, on aura quoi?
Le décalage du plan de relance. Il y a des gens qui disaient, même qui polémiquaient, mais c'est pas une semaine, votre plan, vous auriez dû l'annoncer début juillet ou je ne sais quand.
Jean Castex, Premier ministre.
C'est oublier que ce plan, en réalité, il vient dans la continuité de dispositions extrêmement ambitieuses pour les Français et pour l'économie française. Le pire de tout, c'est qu'on s'enfonce parce qu'on ne reprend pas l'activité dans une crise économique et sociale qui serait beaucoup plus dangereuse que la crise sanitaire.
C'est un plan de continuité, des aides aux entreprises.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Il y en a déjà eu, des exonérations de cotisations, des suppressions d'impôts. Et nous, on dit, mais et pour les salariés? Vous savez, on a beaucoup applaudi ce qu'on appelait les premiers de corvée. Il y a le personnel soignant dans les hôpitaux, mais les autres, les caissières, les agents de sécurité, eux, ils sont toujours payés comme en février. Hein.
100 milliards, c'est un chiffre qui est très important.
Jean-Pierre Clamadieu.
Maintenant, il faut faire en sorte que ces moyens, ils se mettent en place très très vite.
Président du conseil d'administration d'Engie.
Je crois qu'un certain nombre d'entreprises vont faire face ou font déjà face à des difficultés de trésorerie. Elles ont été soutenues par les différents mécanismes en place. Mais là, il faut qu'elles retrouvent le niveau d'activité qui permette de générer du cash et qui leur permette de retrouver un mode de fonctionnement normal.
Le plan est prêt. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie.
Moi, mes mesures industrielles, par exemple, elles ont déjà été votées. Nous avons 490 millions d'euros qui sont en train de se déployer pour accompagner la transition écologique des entreprises, la numérisation, la modernisation des lignes de production, la relocalisation de production en France.
Les chiffres du chômage du mois de juillet viennent de tomber. Il reste en France un peu plus de 4 millions de chômeurs en catégorie A.
Aujourd'hui, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail qui révèle que près de 50 000 salariés sont touchés par des plans sociaux.
Quand on regarde la somme des plans sociaux, ça fait 50 000 licenciements. Là, à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi sur le site de Pôle emploi qui sont disponibles. Donc il faut relativiser les choses.
Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.
Ce que je constate depuis le début de cette crise, c'est que les patrons ont été à la hauteur dans la protection de leurs salariés, dans le maintien de l'emploi. Globalement, je pense que les patrons vont et ont joué le jeu.
Le débat, c'est avec Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Christian, je me tourne comme d'habitude vers vous pour la photo. Et si on faisait même un petit zoom arrière depuis que nous sommes quittés en juillet, comment est-ce que l'économie a passé l'été?
Dans le contexte quand même un peu particulier d'une pandémie mondiale qui dure plusieurs mois et qui n'est pas terminée, moi je trouve que l'été n'a pas été si mauvais. La Banque de France nous a dit, à fin juillet, on est 7% en dessous de l'activité normale. Bon, 7% on est encore en dessous, mais quand même on n'est plus très très loin de l'activité normale. Cette semaine, on a eu beaucoup d'indicateurs de l'INSEE sur le sentiment des chefs d'entreprise, dans l'industrie, dans les services et dans les services, dans le commerce de détail. Ça continue à s'améliorer en août, un petit peu moins qu'avant, mais ça continue à s'améliorer en août. On reste en dessous de la normale, hein, mais on progresse.
Enfin, 7% de moins de croissance, la croissance négative, c'est de la récession. Hein.
Oui, bien sûr, on est en récession, mais on rebondit. Quand même, l'économie française est en train de repartir. Un petit signe de la Banque de France cette semaine, en mars, avril, mai, les entreprises, elles demandaient des crédits trésorerie pour avoir un peu d'argent, pour être sûr qu'elles allaient s'en sortir. En gros, 20 milliards par mois. En juillet, 8 milliards. Donc, elles demandent toujours de l'aide, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis, du côté de nous, des ménages, les Français, les Françaises, le moral est plutôt stable en août. Il était bien remonté entre le déconfinement en août. Et les sondages nous disent, il y a deux grandes inquiétudes pour demain. Parce que ça, c'est ce qui va jouer pour le plan de relance. Le chômage et la santé. Et en même temps, l'INSEE nous dit moins de craintes sur le chômage. Et quand on regarde les chiffres du ministère du Travail, hausse des embauches de CDI de plus de 8% au mois de juillet. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, c'est la santé. Et là, pardon, mais le gouvernement, sur la santé, faut mettre le masque sur le trottoir de droite, mais pas sur le trottoir de gauche.
Ah bah en haut de la ville, mais pas en bas de la ville. Vous l'avez porté jusqu'à la porte du studio. Studio
dans l'entreprise, pas dans l'entreprise, dans les couloirs. Je pense que là, la com sur la santé n'a pas été trop top pour diminuer les inquiétudes des Français et des Françaises. Donc, l'économie rebondit. La grande question, c'est est-ce qu'on peut passer du rebond à la relance?
Laurent Bigorgne, est-ce que vous êtes d'accord avec cette photographie? Et puis, si elle est si. Elle aurait pu être pire, nous dit en gros Christian Chavagneux. Est-ce que ça peut s'expliquer?
Oui, il aurait pu être pire, avec par exemple les chefs d'entreprise qui ont une vision un peu hétérogène des choses. Il y a un sondage IFOP qui a montré qu'en réalité, ils sont plus inquiets pour l'économie en général que pour leur entreprise en particulier. Mais quand on regarde le sondage précisément, on voit par exemple qu'en Île-de-France, il y a un optimisme assez fort pour mon entreprise si je suis chef d'entreprise. C'est pas nécessairement vrai en région. Donc ça dessine aussi une géographie qui va être très différenciée. Et ce qui me frappe moi beaucoup dans cette crise, c'est son caractère, en tout cas c'est ses effets très hétérogènes. Prenons le cas des ménages. Il y a des ménages qui ont, de façon forcée, involontaire, constitué une énorme épargne. Hein, on sait qu'il y a à peu près 80 milliards qui ont été épargnés jusqu'à juillet. Et puis il y a ces ménages qui, par ailleurs, craignent le chômage. Et avec quand même une remontée du chômage, qui s'est faite au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer de pire depuis le début du quinquennat.
On a détruit 500 000 emplois.
Bien sûr, et ça va malheureusement continuer parce que j'ai tendance à penser que c'est maintenant qu'on est dans le dur. C'est-à-dire que les faillites, c'est maintenant qu'elles vont arriver, et c'est maintenant qu'on va devoir faire des choix de politique économique assez fins. Est-ce qu'on laisse les destructions d'emplois arriver et des réallocations d'actifs vers d'autres entreprises? C'est-à-dire que c'est le cycle de l'économie, alors un cycle évidemment un peu traumatique et qu'il faut lisser le plus possible. Ou est-ce qu'au contraire, on cherche à bloquer ces phénomènes tout simplement parce que on va avoir les yeux rivés sur les indicateurs? C'est le choix que, en tout cas,
c'est le choix de politique économique.
C'est le dilemme que présentait la note du CAE de Philippe Martin,
Conseil
et ses co-auteurs,
ouais.
Exactement en juillet. Et on est dans le cœur de ce sujet maintenant.
Christian, jusqu'à présent, ce qui a bloqué, ce qui vous décrivez une photo moins pire que prévu, faut bien dire que le filet, on va juste dire un mot parce qu'on l'a beaucoup traité, mais tout le filet de sécurité, c'est ça qui fait que la photo est moins pire que prévu. Le prêt garanti par l'État, c'est le chômage partiel, oui.
Oui, mais c'est normal. Quand le marché fonctionne pas, c'est l'État qui doit substituer pour remettre de l'eau dans le moulin. Et c'est ce que le gouvernement a fait, et plutôt bien fait,
Mais Laurent dit jusqu'à quand? C'est ça la question, c'est ça le dilemme.
On a mis 460 milliards. Hein. On a mis 60 milliards de mesures budgétaires, on a mis des mesures de trésorerie, on a mis des mesures de garantie.
Voilà, il y a les garanties, hein, c'est pas de l'argent qu'on a dépensé. Mmh.
Et donc maintenant, le dilemme, c'est ça, dans le plan de relance, c'est ça qui se joue, c'est comment, ou bien c'est pas son job peut-être à ce plan de relance, c'est peut-être pas son objectif, c'est comment on retire le tapis, comment on infuse autre chose,
non,
comment
on remonte. On va retirer le tapis tout de suite, hein. Laurent l'a dit, il y a des inquiétudes pour l'automne, donc il faut surtout pas retirer le tapis. 100 milliards de plan de relance, hein, c'est 100 milliards sur 2 ans, donc c'est 50 milliards. Par an, d'accord, donc ça fait à peu près 2 points de PIB. Est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est pas gros? La relance 81 de François Mitterrand, quand la gauche arrivait au pouvoir, c'était un peu plus de 1 point de PIB, donc c'est le double. La relance Chirac de 76 dans l'économie, c'était 2 points de PIB, donc ça montre bien que ce gouvernement chiracien, non, je plaisante. Il y a trois dimensions.
C'est intéressant de faire un peu d'histoire parce que la relance de 2008, c'est 1,5 point de PIB, et la Cour des comptes nous dit au final, ça permet de générer 0,5 de croissance, c'est-à-dire le tiers de ce qu'on a mobilisé. Donc il faut pas non plus tout attendre du plan de relance.
Exactement.
Hein, le plan de relance ne pourra pas tout.
D'accord. Mais 100 milliards, ce que vous nous dites, c'est que c'est plutôt généreux.
Non, 100 milliards, ça va. C'est au moins ce qu'il fallait mettre, c'est 2 points de PIB. L'Allemagne met plutôt 3-4. Donc, il fallait mettre au moins ces 100 milliards-là. Et peut-être que le gouvernement nous dit s'il faut mettre plus, on mettra plus. Donc, fallait faire ça au minimum pour aider l'économie à se relancer.
Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans ce plan de relance, Laurent? On l'attend, mais il y a eu quand même pas mal de choses distillées.
On nous dit des choses. On nous dit qu'un quart du plan de relance ira vers les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. On nous dit qu'il y a 4 faits structurants. Tout ce qui va aller vers la compétitivité et qu'on qualifie de souveraineté économique ou d'indépendance, ce sont les mots du moment, mais peu importe, c'est de la compétitivité, notamment les baisses d'impôts de production.
Ça, c'est du pipeau intégral. Hein.
Alors, on va y aller.
Moi, je pense que c'est important qu'il y ait une baisse des impôts de production, mais on pourra en discuter. On nous dit qu'évidemment, un tiers du plan de relance, au moins, c'est-à-dire une trentaine de milliards, doit aller vers l'écologie. Il va falloir regarder les choix. Les Allemands ont fait des choix très forts quand on regarde leur plan de relance présenté au mois de juin. Il y a 9 milliards dans le plan de relance allemand vers l'hydrogène. C'est un choix extrêmement fort. J'ai pas le sentiment qu'on soit en mesure aujourd'hui de dessiner des choix aussi acérés. Hein. On nous dit qu'il y a évidemment de la compétence, c'est-à-dire qu'il faut aller soutenir l'emploi des jeunes, c'est notamment ce que ça veut dire. Et puis on nous parle de toutes les mesures de solidarité, notamment les mesures qui vont toucher par exemple le secteur de la santé.
Alors les impôts de production, on y vient Christian, parce que ce qu'on voit dans ce plan de relance, il est pour qui? Il est d'abord pour les entreprises.
Ah bah c'est très clair, c'est un plan de relance.
C'est revendiqué.
C'est revendiqué et c'est en partie tout à fait justifié. Il y a une partie de gestion de court terme. Il faut rappeler quand même que les entreprises françaises sont entrées dans cette crise avec un niveau d'endettement très élevé et plus élevé que dans le reste des pays européens, en tout cas en forte progression, alors que dans les pays qui ont une dette et dont les entreprises sont plus endettées, c'est plutôt en baisse. Et nous, c'était plutôt en hausse. Et là, je tiens à corriger un chiffre qu'on donne souvent. On dit les entreprises françaises, c'est 80, l'équivalent de leur endettement, c'est 80-90% du PIB, de la richesse créée. En fait, ce chiffre, il n'intègre pas les dettes que les entreprises se doivent entre elles. Quand on intègre ce que font les organisations internationales, les dettes que les entreprises se doivent entre elles, la dette des entreprises françaises, c'est l'équivalent de 150% du PIB, beaucoup plus que la dette publique. Donc là-dessus, vous rentrez avec un prêt, des prêts garantis par l'État, en gros 110 milliards, donc plus 50% de prêts de trésorerie, avec des chutes d'exploitation absolument incroyables, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Et là, le gouvernement nous dit, alors, si vous êtes une petite entreprise, je vais vous permettre de rembourser le prêt garanti par l'État, pas sur 1 an, mais sur 5 ans. Alors, vous, les PME, je vais vous donner des garanties pour que les investisseurs vous donnent un petit peu de capital pour que votre dette par rapport à votre capital, tout ça va dans le bon sens, c'est de la gestion de court terme. Il y a un deuxième grand pilier, Laurent nous l'a dit, c'est l'écologie. Mais attention, on nous dit 30 milliards, moi j'attends de voir concrètement ce qu'il y a. Et puis, il y a le troisième grand point qui, pour moi, est le point complètement ridicule. ridicule, qui n'a rien à voir avec la pandémie, qui est une baisse de 20 milliards des impôts de production. C'est des impôts qui pèsent sur le système de production plutôt que de, sans savoir si l'entreprise va être bénéfique ou
pas. En fait, c'est ça. Ce sont des impôts, Laurent, que les entreprises paient.
C'est des impôts qu'on paie avant bénéfice. Dans le cycle de production, c'est des impôts qu'on paie, qu'on fasse du bénéfice ou pas. Et c'est vrai que la France est devenue la championne d'Europe de ces impôts de production. Ils sont beaucoup plus élevés en France que partout ailleurs en Europe et partout ailleurs, j'y inclus l'Allemagne. Et je pense qu'il y a quand même une logique, Christian, au moment où on dit qu'il y a un risque d'affaissement de l'économie française, particulièrement dans le champ industriel, à ce qu'on se dise, qu'on se donne les moyens de faire baisser 10 milliards par an. C'est à la fois beaucoup et en même temps...
C'est énorme. 20 milliards sur deux ans, c'est énorme.
C'est à la fois beaucoup et en même temps, évidemment, sur plus d'une cinquantaine de milliards, ça représente à peine 20% de l'ensemble. On se dit que c'est une mesure de compétitivité, une mesure de compétitivité qui sera sans doute la bienvenue dans les mois qui viennent.
C'est pour donner, vous dites, ça c'est pour la compétitivité, donc ça doit permettre d'exporter plus, ça doit donner une bouffée d'air.
Oui, ça doit donner une bouffée d'air et puis essayer de recaler tendanciellement la France, comme on le fait en trajectoire sur l'impôt sur les sociétés, puisque là, le Premier ministre a dit que cette trajectoire serait maintenue vers 25%, sachant que c'est évidemment pas ce qui va coûter le plus cher aux finances publiques, compte tenu de la situation de non-bénéfice de quantité d'entreprises dans l'année où on est, et sans doute l'année prochaine et l'année suivante encore. Mais ce sont des mesures de compétitivité qui vise à remettre la France, à la réaligner avec ses compétiteurs européens.
Donc quand même, on va dire, Christian, je vous donne la parole, deux grandes mesures, en effet, c'est 20 milliards ou 10 milliards par an de baisse d'impôts de production pour les entreprises. La confirmation que l'impôt sur les sociétés va baisser. Cette politique de l'offre, Christian, qu'est-ce qui vous choque ?
Non, mais c'est les impôts de production, dire on baisse les impôts de production pour donner la compétitivité. Moi, j'ai cherché, il n'y a aucune étude empirique qui fait un lien entre les impôts de production et la compétitivité. Alors moi, j'ai fait ma petite étude empirique à moi, c'est-à-dire que j'ai pris les impôts de production d'un côté et j'ai pris, ouais, j'ai des bonnes sources, l'indice de compétitivité du forum de Davos. Et donc, si ça marche, je devrais avoir des pays qui n'ont pas beaucoup d'impôts de production très compétitifs et puis des pays comme nous, il y a beaucoup d'impôts de production pas compétitifs. Ça marche pas. J'ai pas une belle droite alignée, j'ai un gros paquet de points avec des pays qui ont des impôts de production faibles, qui sont très compétitifs, d'autres qui sont très hauts et qui sont pas compétitifs. Donc c'est vraiment
la liste des très hauts qui seraient très compétitifs.
Par exemple, les impôts de production, il y a le Danemark, il y a 3 ou 4 pays européens qui sont bien au-dessus de nous et qui sont en impôts de production.
Il faut prendre la fiscalité dans son ensemble, Christian.
Voilà, à ce moment-là, qu'on ne nous dise pas les impôts de production, ça va augmenter la compétitivité. Il n'y a pas de lien.
On se retrouvera sur le fait que c'est sans doute là où on est le plus différent de tous nos compétiteurs européens. Parce que l'écart, il est réel.
On est
sur 5-3 points de PIB, la moyenne en zone euro, il est à 2,5 de mémoire.
Exactement. Donc, on est au-dessus.
On est au double.
Oui. Sauf que, il y a des impôts de production et dans tous les pays européens, il y a des subventions de production. Et qui en retrouve en tête des pays qui distribuent le plus de subventions de production? Eh bien, oui, c'est nous, la France.
Bon, donc, en clair, ça veut dire, on prend d'une main et on donne de l'autre.
On en redonne plein. Il aurait fallu aussi réduire la subvention de production. Et puis, je termine.
Des impôts élevés, des subventions élevées.
Exactement. C'est absurde. Mais à ce moment-là, il fallait débattre et dire le système est absurde. On va mettre un petit peu moins d'impôts et un petit peu moins de subventions. Et puis, la dernière chose, c'est que le Conseil d'analyse économique, Laurent Bigorn a cité tout à l'heure l'étude du mois de juillet. Quels sont les trois secteurs qui vont profiter le plus de la baisse des impôts de production? C'est la production de gaz et d'électricité, la finance et les industries extractives. Bonjour, le plan de relance écolo, les industries extractives. Non, c'est complètement incohérent.
Sur le mix qui est en train de préparer le gouvernement, moi j'ai pas... Vous aurez le ministre de l'économie tout à l'heure, il en sait beaucoup plus que nous, mais on essaye quand même de nicher sur au moins 3 milliards les activités véritablement industrielles. Donc, vous ne pouvez pas constitutionnellement faire des différences entre ceux qui vont bénéficier d'un allègement d'impôt.
Je sais bien, mais c'était pas le bon outil.
Alors, la question que j'aimerais vous poser, mais il nous reste une poignée de secondes, c'est surtout est-ce qu'on en a les moyens? Faire autant de baisses, parce que de l'autre côté, on dit que la taxe d'habitation va continuer à être supprimée. Enfin voilà, on est juste en train de creuser. Alors c'est un énorme débat.
Mais c'est l'Europe qui paie. C'est chèque en blanc pour Bruno Le Maire. C'est l'Europe qui paie entre la Banque Centrale Européenne qui finance nos déficits et puis le plan de 40 milliards qu'on va avoir. C'est l'Europe qui paie. Donc le gouvernement s'est dit, tiens, 20 milliards de déficit en plus. Allez, l'Europe, tu vas nous payer ça.
Bon, Laurent.
Les taux sont très bas. Donc en période de taux très bas, compte tenu de la crise qu'on traverse, il y a évidemment pas de question sur le fait qu'il faut une action résolue pour soutenir l'économie. On n'échappera pas. Et la question se posait avant Covid, à un moment ou à un autre, à une discussion sur le train de vie, évidemment, de l'État en France.
Ça veut dire les dépenses publiques.
J'ai l'impression d'entendre Emmanuel.
Comment
changement.
On vous l'a remplacé. pour le même. Allez, où prenons-nous cet argent? Vous dites c'est l'Europe qui paie. Christian, vous savez ce qu'on va faire? Direction Bruxelles.
Il s'est passé quand même quelque chose d'historique, ce sursaut solidaire qui fait que pour la première fois depuis que l'Europe existe, l'Europe est décidée d'emprunter pour les Européens à l'occasion de cette crise.
Bonjour Laxmi Lotha.
Bonjour Alexandra.
Laxmi, vous êtes correspondante de France Inter à Bruxelles, hein, au cœur de la Commission. Ce qui s'est passé cet été, c'était le 21 juillet, c'est l'accord européen sur la relance. On va refaire un petit peu d'histoire. Les 27 ont dit OK pour emprunter tous ensemble, en commun. Ça, c'est un tournant. Mais ce matin, Laxmi, ce qu'on voudrait savoir, et ce que Christian nous a un peu dit, c'est plus terre à terre, c'est cet argent qui va venir de l'Europe, il arrive quand ?
Eh bien, cet argent n'arrivera pas en un claquement de doigts. Il y a une procédure législative à suivre. Le Parlement européen n'aura pas à voter le plan de relance, mais l'Assemblée devra approuver toute une série de règles qui définissent ce fonds. Là, la Commission m'indique qu'elle est confiante et qu'elle pense que le Parlement et le Conseil vont finaliser tout ça en temps opportun, me dit-on. Ensuite, c'est au niveau des États membres que cela doit aussi se jouer. Le mécanisme qui permet à la Commission d'emprunter sur les marchés au nom des 27 doit être approuvé par les parlements d'au moins 23 membres de l'Union. C'est la première fois que l'exécutif européen va emprunter pour l'UE. Pour la France, vous l'avez dit, 40 milliards d'euros de subventions. Cet argent sera octroyé à 70% en 2021 et d'ici 2023 pour le reste. Les États doivent préparer ces plans de relance sur 3 ans et les présenter à la Commission. Celle-ci doit trancher dans les 2 mois suivant le dépôt du dossier, puis le soumettre au vote du Conseil.
Laxmi, d'un mot s'il vous plaît, parce qu'on aimerait savoir s'il y a des conditions pour l'avoir cet argent, pour obtenir ces subventions.
Oui, mais pas de grande révolution. L'objectif, hein, c'est la relance. La Commission va trancher en se basant sur des critères qui valorisent la croissance, la création d'emplois. Ce sont aussi des projets qui concernent la transition énergétique et numérique qui seront appréciés, car 30% de ce fonds doit être consacré au changement climatique. L'autre condition, c'est bien sûr le respect de l'état de droit. Le versement des aides pourra être suspendu en cas de violation. Les subventions seront déboursées par tranche avec des objectifs à atteindre pour pouvoir obtenir les autres versements.
Les détails du plan de relance européen, Laxmi Lotha en direct de Bruxelles. Merci à vous Laxmi. Merci à nos débatteurs de ce samedi, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques et son nouveau comparse, Laurent Bigorni, de l'Institut Montaigne. Il est 9h34 sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, sera avec nous. Mais tout de suite, c'est le moment de sortir du studio, d'aller écouter ce qui se dit sur le terrain. Notre reporter, Anaël Verzo, a pris le train. Il y a 2 directs par jour, un le matin puis un le soir, entre Paris et Issoudun.
Voilà, je viens d'arriver à Issoudun. 12 000 habitants. C'est une commune rurale du centre de la France. On est dans la région du centre-Val de Loire. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Quelques passants. C'est calme. Et là, on se trouve place du 10 juin, qui est la place centrale, la place principale d'Issoudun. Et là, j'ai rendez-vous avec Denis, qui vient d'être licencié, comme l'ensemble des salariés du dépôt de la Halle. Alors, Denis, vous venez de recevoir aujourd'hui, je crois, votre lettre de licenciement.
Oui, au bout de 26 ans de boîte. Je suis rentré, j'avais 22 ans. Après mon armée, en fait, je suis arrivé ici, en fait, parce que c'est la seule usine qu'embauchait à l'époque.
Vous faisiez quoi exactement au dépôt de la Halle ? C'était quoi votre boulot ?
Moi, j'étais souvent cariste ou réceptionnaire, en fait.
Et vous étiez en CDI ?
Oui. Ben, les 287 étaient en CDI depuis la moyenne, ça doit faire 25 ans, 26 ans de boîte, quoi. Il y avait pas loin de 150 intérimaires qui travaillaient autour. Et il y a pratiquement autant de transporteurs routiers qui vont... Ceux qui emmenaient la marchandise, ceux qui l'expédiaient en magasin, c'était souvent les mêmes, quoi.
Il y a des entreprises qui dépendaient de vous, quoi, en fait, et qui risquent de fermer parce que le dépôt de la Halle ferme. Et
exactement, le dépôt de la Halle ferme, donc tous les transporteurs qui travaillaient exclusivement pour nous vont fermer. Ou alors ils vont retrouver d'autres contrats, mais ça va être difficile pour eux parce que le marché, il est un petit peu fermé. Et après, tous les intérimaires qui travaillaient avec nous, les 150 intérimaires qui venaient 8 mois de l'année, bah ceux-là, c'est bouché pour eux. En plus, on a la boîte Safran qui est à côté de chez nous, qui eux embauchaient aussi des intérimaires, ont bloqué toutes les embauches. Ça commence à faire un petit peu beaucoup sur Issoudun, en fait.
Alors pourquoi Issoudun ce matin? Parce que c'est la campagne, mais avec une forte empreinte industrielle. Denis a parlé de Safran, c'est l'une des 300 entreprises de l'aéronautique qui sont implantées dans la région, 25 000 salariés. Il y a aussi la filière automobile, 40 000 salariés, tous bousculés par la Covid. Et puis bien sûr, il y a Lal, une enseigne de vêtements qui n'allait déjà pas fort avant. Allez, on est toujours avec Denis, le cariste, et Anna Elverzo sur la place du 10 juin à Issoudun.
Et est-ce que vous pensez, Denis, qu'avec le plan de relance, là, de 100 milliards d'euros, on n'a pas le détail, on l'aura bientôt, mais est-ce que vous pensez que ça peut résoudre en partie les problèmes économiques qu'il y a en ce moment-là?
Moi, je vais vous dire franchement, il y a début mai, notre PDG, l'ancien PDG de la Halle maintenant, avait fait une demande d'aide à l'État, justement parce qu'il savait que pour le coronavirus, ça allait être compliqué. On lui a refusé, malgré le plan qu'il avait préparé. Ça lui a été refusé. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est que tout l'argent, les centaines de milliards d'euros qu'on met sur la table là, j'ai bien peur que ça va aller aux grands, aux gros, et que les petits ici, ça va être trop compliqué pour eux de demander des aides, donc ils ne le feront pas, et puis à un moment, ils ne tiendront pas, ils mettront la clé sous la porte. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu.
Aux premières loges, il y a les maires qui analysent ce qui va bien et ce qui ne va pas. Le maire, c'est aussi celui qu'on interpelle quand une entreprise rencontre des difficultés. André Léniel, c'est le maire socialiste d'Issoudun. Avec lui, on élargit la photo.
Le département a perdu 1740 emplois, chiffre de l'URSSAF. C'est donc considérable. Et dans ce chiffre, bien entendu, les salariés de la Halle n'étaient pas, puisque leur licenciement ne démarre qu'aujourd'hui. C'est donc un département qui est très impacté. Nous avons la chance, nous, d'avoir à côté de la Halle d'autres entreprises, j'allais dire, de qualité performante. Je pense par exemple aux deux ateliers Vuitton, qui, eux, ont repris à plein et même réembauché, même si c'est partiellement. Mais nous avons aussi la plus grande entreprise du département, Safran, premier fabricant mondial de sièges d'avion. Là, ça a été le licenciement de tous les intérimaires. J'ai aussi une hôtellerie qui a fermé, par exemple.
À Issoudun.
À Issoudun. Bon, alors c'est pas beaucoup d'emplois, c'était 6 ou 7 emplois. Mais il y a toute une série de petites déperditions.
Et est-ce que les difficultés économiques, financières que vous décrivez, là, vous les ressentez dans les comptes de la mairie? Ah, vous avez des chiffres sous les yeux.
J'ai tous les chiffres.
Ah oui, point financier Covid-19.
Arrêté au 1er août, ce qui veut dire qu'ils vont malheureusement s'amplifier. Sur la ville, je suis à plus de 500 000 euros de pertes. Sur la communauté de communes, plus de 400 000.
Et alors, 500 000, 400 000, ça représente quoi?
Ça équivaut à un gymnase. L'essentiel, c'est les pertes de recettes à la patinoire, à l'ensemble de loisirs sportifs. Je rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas, mais les collectivités locales ne bénéficient pas du chômage partiel. Quand je ferme ma piscine pendant plusieurs semaines, je suis obligé de continuer à payer le personnel, contrairement aux entreprises qui peuvent mettre le personnel en chômage partiel. Puis nous perdons de la fiscalité. Je suis très exactement à 1 035 545,33 €.
Plus d'un million d'euros de pertes.
Tout à fait. Et les chiffres nationaux sont eux aussi tout à fait considérables. L'estimation pour les communes et leurs intercommunalités pour 2020, c'est une perte de 6 milliards. Nous craignons que dans ce plan de relance, les collectivités territoriales soient aux abonnés absents. On est des acteurs économiques majeurs. Or, il semble que ce gouvernement l'ait complètement oublié.
Je me trouve toujours à Issoudun. Là, je me trouve dans une pizzeria. Ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom ?
Pascal.
Vous êtes combien de salariés ici ?
4 salariés, plus moi.
Alors, j'ai vu qu'il y avait du monde là, ce midi.
Nous avons rouvert le 1er mai et nous avons eu un grand succès au mois de mai. Ça s'est un peu calmé au mois de juin, mais c'est reparti au mois de juillet. On se plaint pas.
Et du coup, au niveau de votre trésorerie, est-ce que vous avez eu un impact important du fait d'avoir dû fermer pendant plusieurs mois?
Alors, au départ, oui, ça a été très difficile et j'ai eu la bonne surprise un matin. Mon assureur m'a appelé pour me dire qu'on avait une assurance qui couvrait la perte d'exploitation et que c'était intéressant. Donc, nous avons rempli le formulaire et au bout de 3 jours, l'argent était versé sur notre compte.
Ah d'accord, par l'assurance?
Par l'assurance, oui. Donc pas de prêt de l'État, rien du tout. On ne s'est pas surendetté par rapport à certaines personnes qui doivent faire des emprunts pour continuer. Nous, on a eu la chance de ne pas le faire. Voilà.
Et pourquoi vous dites on a eu de la chance? Parce que c'est présenté comme quelque chose de plutôt bien, le prêt garanti par l'État, non?
Oui, mais c'est une charge supplémentaire. Au départ, c'est une bouffée d'oxygène, et à long terme, ça peut être une chose qui peut vous étouffer. Et pour l'instant, on n'a pas eu besoin, mais bon.
Vous avez perdu beaucoup ?
Peut-être 20% du chiffre d'affaires annuel. Hein. On ne peut jamais rattraper le chiffre d'affaires qui est perdu.
Ça paraît assez logique. On ne voit pas pourquoi les gens reviendraient d'un seul coup, deux fois plus, manger au restaurant.
Et en plus, avec tous les emplois qui vont être perdus, donc les gens, je pense, vont être un peu économes pour voir l'avenir. C'est logique. Hein.
Et au niveau de la région, quels sont les impacts de la crise ? Harold Duwart est le vice-président délégué au développement économique du Centre Val-de-Loire.
Dans notre région, ce qu'on observe, c'est un rebond quand même de l'activité. On voit que il y a eu beaucoup d'épargne accumulée, beaucoup de consommateurs qui se sont remis à consommer assez largement. Et sur le plan industriel, qui est le plus sensible à la conjoncture, on reste toujours sur une situation très contrastée avec un secteur automobile et aéronautique, je dirais totalement sinistré, où effectivement on a un certain nombre d'annonces de licenciements, de plans sociaux. Et puis le reste de l'industrie qui quand même a repris très largement avec des secteurs qui tournent à plein régime. Et on en a des très forts dans la région, comme la pharmacie. Même si on a toujours l'intérim à l'arrêt, les recrutements de nouveaux CDD à l'arrêt et la précarisation de toute une gamme de travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, consultants, qui eux sont en général les oubliés des mesures de soutien et qui aujourd'hui sont un peu en difficulté.
Selon vous, les entreprises en grande difficulté qui risquent de faire faillite, elles représentent quel pourcentage des entreprises de la région ?
On a toujours 15 à 20% des chefs d'entreprise qui sont sur le fil en matière d'activité de trésorerie. Et ce sont ces 15 à 20%-là qui ont survécu à la crise de 2008 et qui, depuis à peine 2 ou 3 ans, commençaient à respirer et à refaire de la trésorerie pour éventuellement envisager de refaire des projets plus tard et qui aujourd'hui se retrouvent extrêmement dépendantes de ce qui va se passer.
À Issoudun et dans le centre Val-de-Loire, ce qu'on attend du plan de relance, c'était le reportage d'Anna Elverzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Ce qui nous arrive et ce qui va se passer. Ce matin, notre invité est le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour.
Alors ce qui nous arrive déjà, c'est le masque obligatoire. Hein. Strasbourg, Marseille, Paris, bientôt Bordeaux. En Europe, on voit aussi qu'il y a des pays qui sont en train de refermer leurs frontières sans concertation. Dans ces conditions, comment être optimiste pour l'économie ?
Optimiste, volontariste, tout simplement parce que on voit depuis 3 mois... que nous avons des résultats qui se consolident, que la consommation a redémarré en mai et en juin, et surtout plus important que ça, que nous avons une base économique qui est solide en France. Nous avons des salariés qui sont compétents, des ouvriers qui sont plus que compétents, nous avons des technologies qui sont de pointe, nous avons un tissu industriel qui a été abîmé mais qui reste solide. Donc nous avons tout pour réussir. Et je voudrais juste qu'on regarde 6 mois en arrière, 7 mois en arrière, et qu'on se souvienne que début 2020, avant le début de la crise, nous avions 1,5 point de croissance, c'était 0,6 point de plus qu'en Allemagne. Nous étions le pays le plus attractif pour un investisseur étranger. Il regardait dans tous les pays européens, il se disait « Où est-ce qu'il faut investir ? En France ?» Et nous étions sous la barre des 8% de taux de chômage. Donc je veux vraiment dire à tous les Français qui nous écoutent, nous allons y arriver.
Alors, en attendant, l'automne pourrait être difficile, on l'a entendu dans notre débat. C'est souvent l'été que les plans de licenciement se préparent. Est-ce que vous voyez arriver une cascade de plans sociaux, de licenciements ? Est-ce qu'on va sauver tout le monde ?
On va faire le maximum pour sauver tout le monde. Je ne dis pas que on aura des résultats qui nous permettront d'éviter toutes les faillites. Est-ce qu'il y aura plus de faillites dans les mois qui viennent qu'il y en a d'ordinaire ? Oui.
À quel niveau ?
Est-ce que,
quel
je
niveau,
peux pas
là,
vous
là,
le
là,
dire, d'habitude il y a 50 000 faillites en moyenne par an, il y en aura sans doute plus dans les mois qui viennent. Est-ce que nous ferons tout, et même plus que tout, pour éviter ces faillites et trouver des solutions ? La réponse est oui. Et j'entendais dans le reportage parler de Camaïeu. Nous avons trouvé une reprise pour Camaïeu. On pourrait parler de Conforama. Nous avons travaillé pendant des semaines pour sauver Conforama et trouver une solution. Même chose pour Courtepaille. Même chose pour Arc International, qui est un grand verrier dans le nord de la France. Ils ont besoin d'argent frais. On met 30 millions d'euros.
Là, ils vont avoir pas besoin. Ceux qui allaient mal avant, est-ce
mais
qu'on
non, mais là, aussi, nous aidons, bien sûr. Arc International, beaucoup d'emplois dans l'industrie du verre dans le nord de la France. Ils ont besoin d'argent frais. On a mis 30 millions d'euros. Ils vont avoir besoin de plus d'argent, probablement. eh bien nous mettrons plus d'argent. Donc nous ne ménagerons aucun des efforts nécessaires de l'État, comme nous l'avons fait depuis le premier jour de la crise, pour sauver des emplois et sauver des entreprises.
Les chefs d'entreprise, les PME, les TPE, qui s'inquiètent de ces prêts qu'ils ont contractés et qu'ils pensent ne pourront pas rembourser, qu'est-ce qui va se passer pour eux ?
Alors, la trésorerie des entreprises, c'est ma préoccupation la plus immédiate. Parce qu'effectivement, vous avez des centaines de milliers d'entreprises qui ont contracté des prêts garantis par l'État. Ça les a sauvés, n'oublions pas. Ça a sauvé des restaurants, ça a sauvé des hôtels, ça a sauvé des commerces de proximité. Ils l'ont contracté au mois de mars et d'avril.
À 0,25%.
À 0,25%. Ils se disent, on a un an devant nous, mais quel va être le taux ensuite ? J'ai négocié avec les banques le taux le plus attractif possible. Dans une fourchette entre 1% et 3%.
Elles n'ont pas l'air de le confirmer, les banques, Bruno Le Maire.
Oui, parce
elles n'ont pas l'air de... Elles le confirment
je sais
pas
bien que pour les banques, ce n'est pas forcément ce qui est le plus attractif, mais je considère que les banques ont joué le jeu dans cette crise. Et je leur demande, avec beaucoup de gravité, de continuer à jouer le jeu du soutien aux entreprises. Et cette fourchette de 1 à 3%, qui voudra dire que si vous prolongez votre prêt d'un an supplémentaire, on sera entre 1 et 1,5. De 2 ans, vous serez entre 1,5 et 2. Et je précise, parce que c'est un point très important, que ce chiffre que je donne comprend le coût de la garantie de l'État, qui représente quasiment la moitié de ce taux. Donc ça fait un taux très attractif. C'est vrai que c'est un effort pour les banques. Mais cet effort, je leur demande de le faire parce qu'il est indispensable pour sauver des dizaines de milliers d'entreprises qui ont contracté un prêt, qui ne pourront pas le rembourser d'ici un an, qui vont donc étendre la durée de ce prêt et qui doivent avoir des taux attractifs. Nous ne nous en sortirons que si nous sommes tous solidaires. La solidarité doit être le mot d'ordre absolu des mois qui viennent entre le secteur financier, les banques, les TPE, les PME, les pouvoirs publics, les régions, les collectivités locales, tous solidaires pour sortir de la crise et en sortir plus fort.
Alors un mot du plan de relance, on sait qu'il sera présenté par le Premier ministre jeudi prochain, mais quand même on a eu pas mal de pistes. On a parlé des impôts de production, 10 milliards d'impôts de production. Est-ce que finalement la lettre du gouverneur de la Banque de France au chef de l'État qui dit « il faut résister à la tentation des baisses d'impôts permanentes non financées » a été mise au classement vertical ?
Non, absolument pas. Et j'écoute en général avec beaucoup d'attention ce que dit le gouverneur de la Banque de France. Mais j'écoute aussi avec beaucoup d'attention ce que me disent les industriels. J'écoute avec beaucoup d'attention ce que me disent les économistes. Et il y a une excellente note du Conseil d'analyse économique, constituée d'économistes de renom, qui nous dit que la France se distingue, je les cite, par un niveau élevé d'impôts de production qui affecte la compétitivité des entreprises sur son territoire. Il ajoute que l'analyse économique enseigne que ces impôts de production sont les plus nocifs en raison des distorsions qu'ils engendrent tout au long de la chaîne de production. Et que la situation en France est d'autant plus préoccupante, je continue à les citer, que nos voisins européens n'ont pas recours à ce type de taxe, ou beaucoup moins que nous. Elle représente 0,5% de la valeur ajoutée des entreprises en Allemagne, 3,6% en France.
Donc vous attendez quoi, Bruno Le Maire, avec ces 10 milliards d'allègements ?
Sur la base de ces analyses, et parce que les industriels aussi m'ont dit, dans la vallée de l'Arve, qui fait du décolletage, dans le nord de la France, dans l'est du pays, tous ces industriels m'ont dit... baisser les impôts de production.
Mais est-ce que la compétitivité des industriels...
Donc nous le faisons et nous allons comme cela améliorer la compétitivité des industriels et enclencher un mécanisme politique qui me paraît vital pour notre pays, qui est la relocalisation industrielle en France. On a délocalisé depuis 30 ans plus que n'importe quel autre pays de l'OCDE. C'est une erreur économique et une faute politique. Nous voulons, avec le président de la République... relocaliser l'industrie en France.
On est pourtant le premier pays en termes d'investissement industriel en Europe. Si, quand les industriels doivent investir, c'est finalement en France qu'ils le font.
Oui, grâce aux choix fiscaux que nous avons fait en 2017.
Donc ces impôts de production ne sont pas...
Ces impôts de production ne font que confirmer les choix de fiscalité que nous avons fait depuis 2017, c'est-à-dire baisser la fiscalité sur le capital parce que l'industrie a besoin de capital, et baisser les impôts de production parce que c'est une condition pour que les relocalisations industrielles se fassent dans les meilleures conditions. Hier, on était avec le président de la République dans une magnifique entreprise de médicaments qui fait des médicaments de la thérapie ciblée extraordinairement pointue. Ils ont fait des investissements considérables. Et c'est une entreprise qui nous dit aujourd'hui, nous, on peut parfaitement rivaliser avec la Chine et avec l'Inde en matière de pharmacie. Mais on a besoin d'avoir un environnement fiscal favorable. Et le fait que vous baissiez les impôts de production va nous aider. La deuxième décision que nous avons prise, qui est majeure, c'est faire un appel à projet pour toutes ces entreprises industrielles qui aujourd'hui n'ont pas de chiffres. Elles veulent investir, elles veulent créer de nouvelles lignes de production, mais il leur faut 10, 20, 30, 40 millions d'euros. Elles ne les ont pas. Nous allons leur apporter des aides directes. 100 millions d'euros ont déjà été débloqués et il y aura au total 1 milliard d'euros dans le plan de relance sur l'aide, je dis bien directe, de la subvention publique aux entreprises industrielles pour qu'elles financent de nouvelles lignes de production et qu'elles produisent en France plutôt qu'à l'étranger.
Bruno Le Maire, vous avez entendu le reportage. Tout le monde a peur d'être oublié dans le plan de relance. D'abord ceux qui sont comme notre cariste là, du reportage Denis, licenciés, il y a les salariés, les indépendants. On a entendu le maire d'Issoudun. Le climat social. À la SNCF, on a la CGT qui appelle à la grève pour le 17 septembre, rejointe par la FSU, Solidaire, et puis aussi des organisations de jeunesse. Et sur les réseaux sociaux, on a les Gilets jaunes qui appellent à la mobilisation dès samedi prochain. Est-ce que le climat social vous inquiète, vous, le ministre de l'Économie ?
D'abord, personne ne sera oublié. Personne. Aucune entreprise, aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration ne sera oubliée. Aucune collectivité locale, contrairement à ce que j'ai entendu dire, il y a déjà de l'argent qui a été mis à disposition des collectivités locales, que ce soit les régions ou les mairies, pour compenser le manque à gagner. Personne ne sera oublié dans la relance. Et je redonne ce mot d'ordre.
Donc pas inquiet pour le climat
solidaire. La solidarité doit faire partie aujourd'hui de l'état d'esprit collectif.
Donc les appels à la grève, à la mobilisation.
J'ai du mal à comprendre qu'on lance un appel à la grève à la SNCF, alors que nous venons d'éteindre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF, et que chacun sait, ce n'est pas une grande révélation, qu'il y aura dans le plan de relance, le Premier ministre le précisera la semaine prochaine, des investissements massifs dans le transport ferroviaire. Là, moi, je pose simplement la question, à quoi sert cette grève à la SNCF ? Quels sont les objectifs ? Pour quelle raison, aujourd'hui, la CGT appelle-t-elle à la grève à la SNCF ? Et qu'est-ce que ça va améliorer ? Je ne dis même pas pour les Français, je ne dis même pas pour les citoyens, pour les cheminots. Qu'est-ce que ça va améliorer pour les cheminots, alors même que le gouvernement, aujourd'hui, reprend la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros et décide d'investir massivement pour le transport ferroviaire ?
Alors, dans les revendications, justement, il y a cette idée qu'il faudrait mettre plus de conditions à tout ce soutien qu'apporte l'État aux entreprises. Vous étiez au MEDEF cette semaine et vous avez eu des mots très forts en direction des chefs d'entreprise. Vous avez dit « Nous allons vous soutenir massivement, mais je vous en supplie, limitez au strict minimum le recours aux travailleurs détachés, faites travailler les ouvriers français, embauchez des jeunes. » Bruno Le Maire, est-ce que ça serait pas plus simple, en effet, de mettre pour le travail des conditions aux aides qu'accorde l'État ?
Nous allons annoncé avec le Premier ministre le plan de relance sur lequel j'ai travaillé depuis maintenant près de 4 mois, après avoir apporté une réponse massive et immédiate à la crise qui, je pense, a été saluée parce qu'elle a été efficace. Nous allons ensuite avoir une discussion de ce projet de loi. Il sera dans le projet de loi de finances. Il y aura une discussion au Parlement. Il y aura, de la part des parlementaires, des demandes de contrepartie. Ces demandes de contrepartie sont légitimes. Quand j'ai apporté mon soutien à Air France, à hauteur de 7 milliards d'euros, j'ai demandé des contreparties sur la réduction des émissions de CO2, sur la suppression d'un certain nombre de lignes intérieures et sur l'amélioration des résultats de l'entreprise.
Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y aura des contreparties sur l'emploi ?
Il peut y avoir des contreparties qui soient demandées, en tout cas certainement en matière environnementale. Si on met en place des prêts participatifs de 7 ans qui sont coûteux pour l'État, nous allons fixer des contreparties environnementales, mais que je souhaite discuter dans le débat parlementaire. Il y a d'abord les annonces du plan de relance, combien est-ce qu'on met sur telle ou telle politique, le Premier ministre le fera la semaine prochaine. Il y aura ensuite le débat à l'Assemblée nationale et je suis convaincu que les parlementaires, légitimement, demanderont un certain nombre de contreparties.
Dernière question, Bruno Le Maire. François Bayrou, nommé haut-commissaire au plan, ça y est, c'est fait. Donc des choix stratégiques au commissariat au plan, apparemment avec un large périmètre. Est-ce qu'on n'allait pas être un peu en compétition avec François Bayrou ?
Je pense que vous n'avez pas entendu le message que j'ai passé tout à l'heure. Solidarité.
Moi,
je suis heureux que François Bayrou soit nommé au plan. Je pense que c'est une bonne décision et que c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, je vais être chargé d'une responsabilité lourde. L'exécution de ce plan. Et tout va se jouer dans l'exécution. Que ça aille jusqu'à Issoudun, que ça aille jusqu'à chaque salarié, qu'aucun ouvrier ne se sente délaissé, qu'il se dise « on s'est occupé de moi et on a apporté une réponse » à ma situation. C'est ça ma responsabilité. Et il faut aussi une réflexion de plus long terme sur tous les sujets d'ailleurs, économiques, financiers, éducatifs, démographiques. Ce sera la responsabilité de François Bayrou. Je vous fais une révélation ce matin. Je l'ai reçu chez moi, au Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle cet été, François Bayrou. Nous avons eu une longue discussion tous les deux, justement pour que nous puissions travailler ensemble. Il y a une seule chose qui compte pour moi, c'est le service des Français. Donc je ne suis pas là pour rentrer en compétition avec qui que ce soit. Nous allons travailler bien et nous allons travailler avec efficacité avec François Bayrou.
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Merci d'avoir été sur France Inter. Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Ben, lundi, on sera tous de retour au boulot avec un masque. Alors, on commence tout de suite avec la question d'un auditeur inquiet, Pierre Hubert. Malgré un cas avéré de Covid dans son entreprise, personne n'a été envoyé en quatorzaine. Est-ce que l'employeur peut demander à ses salariés de venir quand même travailler?
Alors oui, Pierre Hubert, la quatorzaine, c'est une recommandation, pas une obligation. Surtout si l'employeur considère qu'il a pris toutes les mesures nécessaires. Dans un monde parfait et aseptisé, il ne devrait même pas y avoir de personnes contact, sauf qu'on n'est pas au cinéma, que l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés et qu'il est plus raisonnable d'isoler par précaution les personnes potentiellement contaminées. C'est en tout cas le conseil que donne Caroline André-Hess, avocate au cabinet Ayash Salama. On n'est jamais à l'abri d'une contamination en se croisant à la cantine, à la pause. Et si la situation devait mal tourner, c'est l'employeur qui peut être poursuivi. Dès l'instant où un salarié avertit sa direction qu'il est positif au Covid, c'est à elle de déterminer avec qui il a été en contact, des collègues, des clients. Le mieux ensuite, c'est de renvoyer ses salariés chez eux.
Mais quel est le statut de ces salariés en quatorzaine, Sandrine? Est-ce qu'ils sont en arrêt maladie, en télétravail, en chômage partiel?
Pendant la période de confinement, la situation était simple. Les personnes placées à l'isolement étaient automatiquement en arrêt de travail. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Dans le cas où le salarié présente des symptômes, là c'est clair, le médecin traitant délivre un arrêt de travail. Il peut d'ailleurs aussi le faire pour un parent, même asymptomatique, qui ne peut pas travailler parce qu'il doit garder un enfant contaminé. Dans les autres situations où les cas contacts vont bien, un employeur a tout à fait le droit de demander à un salarié en quatorzaine de télétravailler. Si ce n'est pas possible parce qu'il est vendeur ou déménageur, il bénéficie de ce qu'on appelle une dispense d'activité rémunérée. Et puis oui, enfin, une entreprise qui choisit de mettre toute une équipe en quatorzaine et qui du coup ne peut plus fonctionner, peut toujours faire une demande de chômage partiel classique. Maintenant, pour éviter la multiplication des clusters et des quatorzaines, l'une des pistes est de consulter les élus du personnel sur les protocoles sanitaires, les intégrer au règlement intérieur et surtout communiquer dessus.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.